Il s'est passé quelque chose, Daniel Ben Saïd, et ça se lit dans vos textes. Tous vos textes qui tournent autour peut-être du plus accompli, celui qui s'appelle le Paris mélancolique, sont des figures de ce Paris et sont des figures de cette mélancolie. Qu'il s'agisse de moi, la Révolution, première identité de Daniel Ben Saïd, moi, la Révolution,
Oui, un peu mégalo.
Mais c'était un dialogue très, très vif et alerte.
Oui.
La deuxième identité, c'est peut-être Walter Benjamin, la sentinelle messianique. La troisième identité, c'est peut-être Jeanne d'Arc. Ça, c'est un retour par l'enfance, un détour par Charles Péguy. C'est de Guerlas. Et je pense que de Guerlas, chez vous, a dû revenir à plus d'un moment. C'est quand même un personnage guerrier et c'est une figure de femme, ce qui est très intéressant aussi. Et le tout dans une espèce de discordance des temps, qui était aussi un de vos livres les plus accomplis et qui accompagne, qui est une sorte de double publié aux éditions de La Passion, d'un autre livre paru chez Fayard et qui s'appelle Marx l'intempestif. Alors il y a le parieur, le mélancolique, celui qui, de Guerlas, se glisse dans la discordance des temps, et il y a ce personnage qui ne quitte pas Marx et qui flotte dans les grandeurs et misères d'une aventure critique. Alors je me dis qu'il s'est passé quelque chose, Daniel Ben Saïd, parce que dans tous vos livres, la parole est de chair, qu'il s'agisse de Jeanne d'Arc ou de Marx, de moi la Révolution ou de la discordance des temps, c'est aussi vif. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est peut-être ce qui est arrivé à Charles Péguy. Et je voudrais commencer par ce petit texte de vous, pardon, de Péguy, que vous citez dans La Discordance des temps, où vous nous annoncez que l'histoire ne fait rien après Engels. L'humanité n'est pas de fabrication ni de tenue mécanique, naturelle. Elle procède naturellement selon une méthode, selon un rythme naturel. Organique, elle procède organiquement, selon une méthode, selon un rythme organique. Particulièrement, elle fait des poussées qui donnent sensiblement un rythme végétal, arborescent. Je n'emploie pas au hasard cette comparaison de la végétation organique, historique, de l'humanité avec la végétation organique, historique, d'un arbre et généralement de végétaux arborescents. C'est un texte de Péguy, des œuvres en prose. Et je crois que comme lui, vous percevez l'histoire dans cette arborescence, dans cette végétation luxuriante, et en même temps, comme lui, comme quelque chose qui mord, qui tenaille.
Je crois que c'est un des fils conducteurs, effectivement, ou une transversale aux différentes pistes des bouquins, c'est à l'épreuve justement d'un siècle qui a été à bien des égards de déception et de désastre, quelle idée on peut se faire de l'histoire. Et par rapport à ça, je crois que l'idée de l'arborescence, ce qu'elle implique de ramification, de bifurcation, de naissance et de mort permanente de possible, me paraît un fil conducteur beaucoup plus fécond aujourd'hui que la représentation finalement de la grande mécanique du progrès, de ses promesses sous garantie et d'une version profane du jugement dernier en histoire. Alors il y a ça en toile de fond, c'est ce rapport problématique à l'histoire qui implique non pas une indifférence ou un retrait esthétique devant ces défis, mais un engagement en forme de pari. Alors vous l'avez dit, il y a le thème récurrent du pari, et la mélancolie dans la mesure où on est toujours entre le sens du rythme, c'est-à-dire cette arborescence, c'est aussi des rythmes de vie, des rythmes au pluriel, il n'y a pas justement un temps unique ou une temporalité homogène de l'histoire, et c'est en même temps, puisqu'il y a rythme, c'est aussi le contretemps, qui en est la contrepartie. Et donc la mélancolie, c'est plutôt le fait que cette action qui vise à agir sur les choses, voire dans la version ambitieuse à changer le monde, elle est toujours dans l'ambiguïté entre le trop tard et le trop tôt. Bon, finalement, les révolutionnaires, si on regarde, ma galerie de portraits dans le Paris mélancolique, Saint-Just, Blanqui, Guevara, sont tous des grands mélancoliques en réalité, mais dont la mélancolie, je crois, est la conscience diffuse et parfois carrément explicite de cette nécessité, de cette impossibilité de l'action en même temps. Bon, voilà, dans cet entre-deux. Alors, par rapport à ça, ce que vous avez dit, il y a des groupes je prétends pas avoir fait une œuvre architecturale, pensée, mais en fait, ça se regroupe assez facilement. C'est-à-dire qu'il y a, en réalité, il y a une famille.
Ça commence en 89. Tous ces textes-là sont des textes qui commencent en 89.
C'est vrai, c'est les 10 dernières années, oui.
Oui, c'est les 10 dernières années. Les autres ayant été... Je n'ai pas cité les livres, mais il y a une floraison de bouquins militants, je dirais.
Militants, oui, voilà. C'est ça. Bon, ben, 89, c'est peut-être pas un hasard. Hein, c'est que... c'est... Bon, j'espère pas être dans le registre de la maturité déjà un peu raciste, mais bon, c'est vrai. Il y a un certain recul, et puis il y a effectivement... une situation où la période activiste du primat de l'action et d'une littérature militante au sens polémique, que je déprécie pas a posteriori, je pense qu'elle a son rôle, enfin, il y avait un besoin de recul, de distance et de réflexion, et les événements... moi, la Révolution, ça a été sollicité, en fait, par l'éditeur...
Edoui Plenel.
Par Edoui Plenel, pour
chez
sa
Gallimard.
Collection chez Gallimard.
Au vif du sujet.
Cela, c'est un petit peu une rencontre, je ne l'aurais pas fait, c'est pas une commande, mais c'est une suggestion. Donc ça, c'est un peu avant la chute du mur de Berlin, puis tous les événements...
Et le bicentenaire. Mais ce qui est très amusant, c'est que vous dites, c'est une prise de distance, et ça s'appelle justement « Moi, la Révolution », c'est-à-dire qu'on est encore votre premier livre d'auteur, je dirais, d'écrivain, votre premier texte littéraire est un texte d'identification pure et simple à la Révolution. Vous n'y avez pas coupé.
Non, ça c'est un thème enfin même qui traverse dans le Paris mélancolique, dans le Marx. Bon, c'est un arrière-plan ou une interrogation constante.
Mais c'est fusionnel quand même, moi, la Révolution.
C'est une subjectivisation du rapport. Oui, alors sinon, c'est, quand je dis c'est mégalo, il faut quand même un petit peu expliciter le titre. C'est une prosopopée, c'est le choix de faire parler justement la Révolution, encore un personnage féminin, dans ses rapports compliqués avec sa sœur jumelle, la République, etc. etc.
Mais, sa sœur ou sa fille?
Non, c'est sa jumelle. C'est sa jumelle, mais sa jumelle qui s'installe dans le monde, qui réussit, oui. Qui s'institutionnalise, etc. L'autre est beaucoup plus échevelée, indisciplinée.
Oui, elle est catastrophique, l'autre. Hein.
Elle a un côté catastrophique, mais ça permet de rentrer finalement justement dans ces incertitudes, dans les doutes, c'est-à-dire de ne pas faire l'histoire après coup de ce qui a eu lieu, mais de se confronter un petit peu à l'état naissant de ses possibles, de ses choix, de ses difficultés, et surtout de rétablir, par rapport à un discours qui serait un discours académique ou universitaire, cette part de la subjectivité révolutionnaire, en réalité, avec sa dimension d'émotion et de passion. Et les trois bouquins, curieusement, ça peut paraître très curieux, touche à tout, la Révolution, c'est une commande, le Walter Benjamin, c'est un an après, et puis il y a Jeanne d'Arc. En réalité, ces trois bouquins forment un ensemble. C'est-à-dire la clé, c'est évidemment le bouquin sur Walter Benjamin, et notamment les thèses sur le concept d'histoire, qui est une approche du rapport entre l'histoire et la mémoire, un travail vivant de réappropriation, de remémoration, qui est son point commun avec Peggy. Et je dirais, c'est un peu prétentieux, que moi, la Révolution et Jeanne d'Arc sont, d'une certaine manière, des essais d'écriture historique inspirés par la philosophie de l'histoire de Benjamin, c'est-à-dire plonger dans le passé, rappeler à soi ce passé, redonner une chance aux vaincus. Bon, c'est ce travail de remise en jeu, de redistribution des cartes au présent, qui rappelle le passé à soi, qui redonne une chance au passé, avec l'idée, alors bon, là, ça nous amènera, j'imagine qu'on y reviendra, qui est un des points pour moi d'affinité les plus forts avec le texte de Benjamin, c'est que justement, ça peut être ambigu, mais que cette idée de révolution est plus qu'une, finalement, un cadeau ou un legs aux générations futures, et l'accomplissement d'une dette par rapport aux générations passées. Bon, d'où...
C'est votre côté messianique.
C'est le côté...
Presque religieux, presque pur.
Non, un messianisme profane. Mmh. Mais bon, le Messie de Benjamin, chaque minute est une porte étroite par où peut entrer le Messie. Ce n'est pas la garantie d'une rédemption, d'un Messie qui viendra. Il viendra. C'est la disponibilité à l'irruption du possible. C'est finalement conjurer, la possibilité permanente de conjurer la fatalité ou la répétition des défaites ou la répétition du malheur. Mais c'est cette ouverture au possible qui me paraît être une figure profane du messianique, comme dit Derrida. Bon, il ne parle pas de messianisme, il parle du messianique.
Mm-hmm. Au masculin.
Au masculin, même si le messie est souvent féminin. Jeanne d'Arc est une belle éruption messianique.
Alors, de Jeanne d'Arc à Peggy, il y a encore une affiliation. Vous êtes devenu amoureux de Jeanne d'Arc, je suppose, par vos lectures d'enfance de Charles Péguy. Et quand j'ai commencé par ce texte de Péguy, parce que j'étais très intriguée. Je vous ai connu jeune, étudiant, et à ce moment-là, je n'aurais jamais deviné que vous aimiez Péguy. Mais je crois que l'affinité qu'il y a entre Péguy et vous, comme avec Jeanne d'Arc, qui est la fille légendaire de Michelet, c'est que vous êtes peut-être... Bon, je fais là des comparaisons comme ça. Mais vous êtes entre le fils de la chaisière, dont le père est mort des suites de l'affrontement entre les communards et les Versaillais, Charles Péguy. Entre Michelet, qui est un fils d'imprimeur ruiné par Napoléon, et entre vous, Daniel Ben Saïd, qui est un fils de bistrotier, dont la mère était modiste, il y a des affinités de langue, des affinités de fougue, des affinités de blessure. Et je pense que pour tous les trois, le temps est personnalisé, et que pour tous les trois, il y a une sorte de conflit entre l'histoire et la mémoire et de fusion entre l'histoire et la mémoire. Dans la Révolution, dans Moi, la Révolution, elles s'attaquent toutes les deux. Ouais. Mais je pense que pour vous, la mémoire et l'histoire ne font qu'un. Et c'est pour ça que je pense qu'il s'est passé quelque chose, que peut-être un choc, Blanqui dirait un choc régénérateur.
Résurrecteur,
oui. Un choc résurrecteur ou régénérateur. Et vous, alors j'allais vous demander, est-ce que pour vous l'histoire est traumatique ?
C'est ça, je ne me suis pas posé la question sous cette forme-là.
Probablement, l'histoire est un choc.
Enfin, il y a des chocs événementiels. Disons que l'histoire retentit sous le choc. L'image de Blanqui est une belle image. Hein. C'est des chocs résurrecteurs qui réveillent. Cette figure du réveil, elle est chez Blanqui. Hein. Il s'agit de réveiller des possibilités endormies. Et puis, c'est un des grands thèmes aussi de Benjamin, hein, le réveil.
Et de Proust.
Ce qui est révolutionnaire, c'est le réveil. Donc, on pourrait effectivement voir des correspondances, des traumas, du rappel de refoulés, etc. Je ne dis pas que l'histoire...
C'est pas votre genre de dire ça.
Non, ce n'est pas tellement mon genre. En général, je ne suis pas dans le vocabulaire psychanalytique. J'ai peut-être même une sorte de méfiance suspecte. Bon, enfin, laissons ça de côté. Je ne dis pas que c'est la même chose, l'histoire et la mémoire. Hein. C'est un dialogue, c'est une tension...
L'histoire dit à la mémoire quelle science tu fais, et la mémoire dit à l'histoire quelle vie tu mènes.
Oui, c'est ça. Hein? Oui,
donc,
c'est ça.
toutes les deux sont conflictuelles. Mais
nécessaires. Donc, c'est la tension et le dialogue entre les deux qui m'intéressent. C'est pas d'opposer l'une à l'autre, mais ce qui se passe dans l'entre-deux de ce jeu, d'une raison historique qui se cherche, et en même temps de cette passion de mémoire. Alors, le rapport à Péguy, il a peut-être effectivement une dimension
affective
et biographique. La rencontre avec Péguy, d'abord, elle est assez bizarre, ma rencontre avec Péguy, parce que...
C'est par un prof, non ? C'est à l'école.
C'est un prof de français qui voulait me faire préparer le concours général, qui m'avait pris en affection.
Et, à Toulouse.
À Toulouse, monsieur Le Bihan, qui était, voilà, autant que je m'en souvienne... idéologiquement aux antipodes, c'est-à-dire c'était Brasillac, oui, sûrement un maurassien, à l'époque j'avais pas tellement les clés, Et donc il m'a fait lire du Peggy, à la fois pour s'imprégner de l'écriture, et puis je pense que lui était un péguiste dernière période, catholique, peut-être intégriste, etc. Bon, j'ai été imprégné à ce moment-là de Peggy, et puis
Vous vous y êtes retrouvé.
et j'y suis retourné par Benjamin, qui déclare, alors ça c'est assez peu, enfin c'est connu des spécialistes, mais Benjamin éprouve une affinité profonde, et je crois qu'elle a un contenu substantiel, une affinité là aussi mélancolique, c'est ce qu'il dit, une mélancolie dominée, mais aussi un rapport à la temporalité, à l'histoire. Les thèmes de Clio se retrouvent largement chez Benjamin. Dans les sources et les influences, c'est à une époque très positiviste, très mécaniste. Les deux sont des Bergsoniens, dans la référence au temps, et justement à la mémoire et au vivant. Donc je suis revenu, j'ai retrouvé mon Peggy d'adolescence,
Chez
20 ou
Benjamin.
25 ans après, via et à travers Benjamin, effectivement. L'autre côté affinitaire, pour Michelet, Peggy, il y a le côté peuple, effectivement. Alors là, ça rentre effectivement en résonance avec une dimension. Je ne vais pas jouer, j'ai pas de mère rempailleuse de chaise, mais effectivement,
Modiste,
c'est un milieu, oui, un
on travaille des
milieu
mains.
ouvrier qui était, enfin, du côté maternel, est très imprégné de ce qu'était la culture populaire autodidacte de l'époque. C'est-à-dire, on lisait, c'est des milieux qui lisaient Zola, qui lisaient Victor Hugo, alors beaucoup. Alors, Les Misérables, c'est complètement fondateur. Et j'en ai gardé un côté, sûrement. Alors, il y a une note récente, là, il y a quelques mois, de la Fondation Saint-Simon sur les nouvelles radicalités qui passent en revue. Bon, Philippe Reynaud, qui est l'auteur de la note, me traite de philosophe rustique. Finalement, bon, ça ne me déplaît pas. Je suis un peu dans ce registre-là, c'est-à-dire un sentiment de dette par rapport à un certain milieu qui a effectivement son travail de mémoire. Bon, pour l'anecdote, mon grand-père avait une dizaine d'années, hein, au moment de la Commune. Il a été banni, il est né passage de la Main d'Or, donc en plein quartier ébéniste. Et il avait gardé un portrait de Jean-Baptiste Clément, et tous les ans, pour l'anniversaire de la Commune, il faisait solennellement lever la famille pour chanter le temps des cerises. Bon, c'était. Donc là, il y a une.
Le grand-père maternel, alors.
Maternelle, ouais. Alors, bon, le côté paternel, c'est le bled, c'est l'Algérie, rien à voir. Et puis, quand vous dites un langage, je ne sais pas ce qu'est mon langage, mais en fait, je
C'est un
sais que.
langage incarné.
Et parce que je dois beaucoup, bon, j'ai été effectivement élevé dans un bistrot qui est un bistrot des faubourgs de Toulouse. Et dans les années 50, c'était là où se réunissaient pour la remise des cartes la cellule locale du Parti communiste, les réunions des femmes françaises. Et en fait, je me suis nourri des récits de comptoir, de la résistance, des anciens des brigades internationales en Espagne, etc. Et là, bon, se noue un engagement. On est en plein dans le propos qui est une forme de fidélité. C'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure de dette par rapport au passé. Avant d'avoir un engagement raisonné ou rationnel et construit, il y a quasiment corporel et charnel, pour parler comme Peggy, et qui tisse justement des solidarités, des fidélités qui ne peuvent pas céder pour un caprice ou pour un revers, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose de constitutif assez fort, effectivement. Et
Donc là,
j'espère que
oui.
c'est vrai que ça se retrouve, y compris dans la façon de l'exprimer.
Ça se retrouve dans la langue parce que c'est une langue qui n'est pas académique. C'est bon, vous avez fait l'école normale supérieure, hein, Daniel Ben
Oui, je ne suis pas un
Saïd.
autodidacte
C'est pas
total.
non, mais on sent qu'il y a comme entre la Révolution et la République, il y a entre la langue universitaire et vous, il y a un débat, il y a une chamaillerie et ça vous évite le jargon. Vous n'êtes pas dupe du jargon philosophique. L'être de l'étang, il n'y a jamais ça chez vous.
Non, c'est pas mon registre spontané. Bon, évidemment, j'ai fait mes années, mes apprentissages universitaires, donc c'est un langage que je peux utiliser ou maîtriser, mais il est toujours métissé. Et en fait, c'est un problème que j'ai eu du mal à dominer. C'est que je veux pas faire du misérabilisme, mais c'est vrai que En raison d'origine sociale, je crois que j'ai deux registres très différents entre l'oral et l'écrit. Il y a des codes, et il y a le bouquin de Basil Bernstein là-dessus sur les problèmes de langage. Selon le milieu dans lequel on s'est formé, on peut avoir un langage oral et écrit qui correspond complètement, c'est-à-dire que où l'expression orale est d'emblée grammaticalement correcte. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis vraiment dans l'oral quand je suis dans l'oral. C'est-à-dire c'est toujours le comptoir avec la gestuelle qui accompagne, les phrases inachevées, etc. Mais j'espère, mais cet héritage-là fait que j'ai du mal, effectivement, enfin, ce n'est pas un calcul, mais.
Vous ne vous résignez pas au langage
Au
académique.
langage académique, non. Je pense qu'il y a sans arrêt cette tension là aussi entre deux registres de langage. Et puis aussi.
Il y a de l'inerte, il y a du froid, il y a du mort dans le jargon philosophique.
Oui, parce qu'il est du côté là. Enfin, il est pas chez tout le monde, mais il est souvent du côté de l'institution. Il y a aussi quelque chose, c'est que, ayant conservé une pratique militante, j'ai été en permanence confronté à des auditoires sacrés. Bon, il y a quand même un souci de se faire comprendre sans bêtifier, qui fait que je suis confronté à des publics, à des auditoires, à des réunions, je sais pas, à Carcassonne, à Auch ou à Foix, qui sont pas du tout du sérail universitaire ou académique et qui pourtant peuvent très bien accéder à des préoccupations relativement abstraites. Mais il faut que ce dialogue soit possible. Et ça, je trouve que c'est un exercice, une contrainte finalement agréable ou positive de dialogue et donc d'intelligibilité.
Diriger le langage de
Mais
l'expérience.
c'est pas par hasard si. Bon, les deux bouquins auxquels vous faisiez référence, ce qui m'a intéressé avec Moi, la Révolution, avec Jeanne d'Arc, c'est de faire aussi des expériences d'écriture. Alors, Moi, la Révolution, la première personne. Ça permettait de jouer un petit peu aussi. Et Jeanne d'Arc, c'est un dialogue. Hein. Jeanne d'Arc est devenue une voix. Alors,
Oui.
c'est une revenante et il y a un dialogue au présent avec cette revenante-là. Mais je crois que ce n'est pas par hasard. Je ne l'ai pas réfléchi sur le coup, mais j'aime bien le langage qui dialogue.
Oui.
Et quand c'est un petit peu à sens unique.
Elle vous fait beaucoup de reproches, la voix de Jeanne d'Arc. Vous essayez de démêler avec elle la naissance de la nation, et elle vous dit que bon, c'est pas si simple. Bon. Mais alors, je vais vous faire un reproche tout de suite, quand même, sur Jeanne d'Arc. Vous sacrifiez à la légende Jeanne d'Arc Michelet, sans jamais vous demander qui était le personnage Jeanne d'Arc. Or, ses origines sociales ont été discutées dès le XVIe siècle. Et bon, c'est cette question sur les origines sociales de Jeanne d'Arc qui fait que il n'est pas si évident que l'histoire de la nation puisse s'incarner dans une fille du peuple, une simple bergère, amazone rebelle, mais que peut-être c'était dans ce duché dont Rémy, vous savez, était dans le duché de Bar, et c'est Yolande de Bar était la belle-mère de Charles VII. Et bon, il y a des.
Oui, il y a toutes les histoires sur la bâtardise, l'origine sociale. Écoutez, j'ai quand même lu beaucoup, alors pas tout, parce que c'est impossible de lire tout ce qui s'est fait sur Jeanne d'Arc, je crois que c'est un des personnages les plus fréquentés.
Non, mais le problème, c'est que
C'est
Jeanne
pas que
d'Arc.
Michelet, hein, les historiens contemporains, en tout cas, partagent peu l'hypothèse de la bâtardise et l'idée de. Alors. À la limite, ça fait partie des complexités qu'elle pourrait revendiquer, mais je crois que dans l'interprétation, enfin, de toute façon, l'intérêt de cette Jeanne d'Arc, c'est que c'est une véritable somme de mystère à elle toute seule, parce que l'idée, le discours qu'elle tient, qui est un discours pré-national ou pré-patriotique, si on veut, effectivement, n'est pas du tout un discours de l'aristocratie de l'époque qui par les liens dynastiques n'a pas du tout un sens de la communauté nationale. En plus, le fait que ça vienne justement des franges du royaume est encore plus insolite. C'est que d'où peut germer une idée comme celle-là? Alors, c'est
Par
plus
les
une.
alliances, la belle-mère de Charles VII.
Oui, mais enfin, dans ces relations dynastiques croisées, encore une fois, c'est plus des alliances familiales avec des cours ou des duchés. Dans laquelle l'idée nationale est pas du tout une idée du côté de l'aristocratie. Hein. C'est une idée populaire au départ. Je
Oh,
ne dis pas.
c'est pas sûr, c'est peut-être une création politique au sommet, comme l'Europe.
Ah.
C'est pas sûr, justement. Enfin, c'est dans. Enfin, en tout cas, le personnage de Jeanne d'Arc est peut-être aussi, dès le départ, une création politique au sommet. Et une. Enfin, comment cette femme connaîtrait-elle la stratégie militaire et le maniement des armes?
Ça fait partie des mystères, parce qu'effectivement, elle n'est pas uniquement une figurante porte-bannière. Elle a joué un rôle militaire, ça c'est incontestable. Elle a une idée.
Elle chevauche à côté de Gilles de Rais, elle est comme lui.
Oui. Elle a une idée curieuse de la légitimité politique, parce que le sacre, c'est comprendre l'enjeu politique de la légitimité qui ne coïncide pas forcément d'ailleurs avec des priorités militaires. Quand bien même ce serait, ça laisse entier le charme du personnage. Elle a quand même 18, 19 ans.
Voilà.
Et le texte, alors là, le seul texte attesté qu'on ait, qui est le texte du procès, est un texte absolument bouleversant et stupéfiant. Bon, y a pas... Là, on est dans le document, pour le coup. Il y a ce mystère. Et le modèle même du procès, qui est quand même un procès en hérésie à peu près typique.
Elle vous plaît parce que c'est une hérétique, et elle vous plaît parce qu'elle manie la langue, et parce qu'elle sait manipuler ses juges. Ça, c'est pas d'une fille du peuple.
Je veux croire que oui, quand même. Je crois que c'est quand même d'une fille du peuple, que, en gros, ses voix, il y a une sorte de confiance, finalement, dans une sorte de conscience propre assez populaire face à des institutions puissantes. Enfin, ça aussi, on l'a dit.
Tous les procès en sorcellerie qu'on a connus après.
Elle est devant 200 spécialistes en théologie, docteurs de la Sorbonne, etc. Et elle déjoue quand même pendant des jours et des jours des pièges théologiques extrêmement sophistiqués au nom de ses voix. Et il a fallu quand même beaucoup d'artifices pour arriver à la piéger et sur des affaires... finalement, elle est condamnée pour avoir porté l'abidum et avoir dérogé aux attributs de la féminité. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle refuse de faire des miracles.
Ce que vous voulez croire, Daniel Ben Saïd, c'est à la stratégie populaire.
Oui, absolument.
Vous voulez croire à l'efficacité populaire.
Oui.
Et vous voulez croire au succès de l'hérésie.
Exactement. Tout à fait. C'est un bon résumé.
En sortant de chez vous, la dernière fois, Daniel Ben Saïd, j'ai aperçu subrepticement une photo devant laquelle on s'est arrêté, et qui est une photo qui date de quand? Elle est là, je la tiens en main.
A priori, je pense que c'est 1915, 14-15, probablement pendant la Première Guerre mondiale. Parce que là-dessus, ma mère doit avoir, je dirais 6 ans, et elle est de 1910, donc...
C'est une photo qui a été prise à Blois.
Oui, devant un entrepôt de chiffonniers.
Devant un entrepôt de chiffonniers.
Chiffonniers, hein,
voilà.
Chiffonniers, c'est important pour Benjamin.
Et pour vous. J'y reviens parce que c'est une photo qui est dans votre bibliothèque. Alors, il y a 3 personnages masculins debout avec leurs casquettes et leurs tabliers. Il y a des femmes en tablier aussi, et un chien qui a une posture de premier communiant.
Absolument. Bon.
C'est une photo de rescapés de la commune. Ça m'a énormément frappée, parce que c'est une photo extrêmement réconfortante. Est-ce qu'il y avait des récits de ces hommes droits, à moustache et à casquette, de ces femmes en tablier, et du métier de chiffonnier?
C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, mon grand-père, effectivement, est parti. Alors, le récit, pour moi, indirect, parce qu'il était déjà. Il a eu ma mère assez tard, et moi, je suis en rejeton d'après la Deuxième Guerre mondiale, donc je ne l'ai pratiquement pas connu. Mais ce qui se racontait, c'était effectivement. Il avait, je crois, déjà 10 ans, donc c'est pas vrai, ça vous donne une idée de son âge à l'époque, au moment de la Commune, et puis, donc, le siège de Paris. Manger du chien, manger du rat, et le bannissement, donc pour avoir participé au Faubourg Saint-Antoine, donc mon arrière-grand-père, son père, ils ont été bannis, puis à Blois, il s'est établi comme ferrailleur, chiffonnier. Alors là, c'est effectivement une coïncidence, parce que le chiffonnier, c'est aussi l'idéal historique de Benjamin, que rien ne soit perdu, que tout soit sauvé, l'objet le plus humble... a encore quelque chose à faire, peut retrouver un deuxième usage ou une deuxième vie. Bon, alors voilà, et ce qui m'en était resté, c'est essentiellement ça. C'est pas tout aussi idyllique, hein. C'est rescapé de la commune, d'accord, mais il en avait gardé, d'après ce qu'on m'a dit, un caractère assez tourmenté et parfois un peu aigri quand même. Qui était une position de défi aigri. La plus belle histoire, c'est celle que je mentionnais dans une des précédentes émissions, c'est cet attachement qui fait qu'il avait précieusement gardé donc, le portrait de Jean-Baptiste Clément, et que rituellement, tous les ans, pour l'anniversaire de la Semaine sanglante, toute la famille était conviée à chanter le temps des cerises. Bon, ça crée une histoire. Dans ma famille maternelle, oui, c'était plutôt, ça s'est transmis, disons, une tradition.
Elle est devenue modiste, elle a fait du chiffon.
Ouvrière modiste, oui, elle était ouvrière, elle faisait des chapeaux, et puis elle est partie à l'aventure pour faire le tour du monde, ce qui à l'époque était quand même audacieux.
Oui.
Mais elle s'est arrêtée à la première étape, elle s'est arrêtée en Algérie comme première étape, où elle a travaillé, puis voilà.
Elle a rencontré un bel homme.
Mon père, et puis ça s'est arrêté là, le tour du monde.
Et alors, oui, alors cette seconde photo, qui était dans un autre rayon, C'est un homme brun, nu, en short, en train de boxer dans une posture de combat et qui a une figure exotique. Hein. C'est un juif algérien. Et ce qui est étonnant, c'est de le voir sportif, musclé, en train de montrer le poing, là, comme ça.
Ben parce que d'abord, là, on est dans la sociologie. Hein. C'est les petits juifs algériens ou nord-africains. De l'époque, la boxe était un des canaux privilégiés de promotion sociale. Alors, mon père avait fait la carrière des Cohen, des Halimi, etc. Il était peut-être un peu flemmard pour ça. Ce que j'ai entendu dire, c'était que c'était un très bon boxeur amateur, mais qui trouvait quand même la discipline de la boxe trop contraignante. Et donc, il a été champion d'Afrique du Nord amateur, mais il n'est jamais passé professionnel. Et Camus raconte justement ces réunions de boxe à Oran, dans des salles enfumées, etc. Bon, c'est en plein dans les années 1925-29. Donc, bon, mais c'est exactement ça. Mais mon père était, en revanche, je dirais, j'aurais du mal à le situer politiquement. Hein.
Oui.
Lui était complètement, je ne dis pas analphabète, il savait lire et écrire, mais il avait quitté l'école à 7 ans, voilà.
Oui.
C'était pas du tout un intellectuel.
La tradition, elle vous est venue par votre mère, alors ?
Probablement, et puis par le milieu social. Là, c'est le bistrot qui. Le bistrot est une école, une école précieuse des misères quotidiennes. Dans les bistrots de clientèle, comme il y avait à l'époque, où les gens passent des heures passent des heures à se raconter. C'est un lieu de circulation de parole extraordinaire, un comptoir. Avec les ressassements, mais surtout à l'époque. Hein, et toute l'odyssée de la brigade des FTP-MOI de Toulouse, de Marcel Languerre, tout ça, c'était en direct, il n'y avait pas la télé, donc c'est une culture orale. Ça, j'ai biberonné, oui, complètement. Ça et la guerre d'Espagne, c'est plutôt ça qui m'a déterminé. Plus effectivement la tradition.
La molle, quand même, vous aviez la molle au bistrot.
Ah à Toulouse, la résistance, ça a été largement, enfin c'était principalement, enfin, comme dans beaucoup d'endroits urbains en tout cas.
La résistance internationaliste,
oui, la main d'œuvre immigrée, et puis il y a une sensibilité, j'évoquais aussi, de lecture. Autant, c'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'on a là affaire à un milieu, ma mère elle avait son certificat d'études, hein, mais c'est des milieux populaires, mais qui en partie autodidactes, mais qui lisaient. Qui lisait des gros livres, dire Les Misérables. Alors, mon grand-père, je ne sais pas, j'ai dédié le Marx intempestif, c'est tout à fait énigmatique, hein, pour Hippolyte. Hippolyte, c'était le grand-père, parce que ma mère me disait, mais je doute qu'il ait pu lire du Marx, surtout à l'époque. Mais elle dit, quand il parlait de Karl Marx, il se mettait à pleurer. Bon, voilà, voilà un héritage. Bon, il pleurait. Alors, il a peut-être lu des brochures ou quelque chose comme ça. Et ma tante, qui était épicière à Blois, bon, aussi, qui, pareil,
mais était une épicière qui, dès qu'elle fermait la boutique tous les jours, avant de la réouvrir, entre 2h et 3h, lisait toute sa vie, a lu et relu Proust. Et pas, les gens n'étaient pas scolarisés, donc ils faisaient leur certificat d'études et puis ils faisaient leur bagage eux-mêmes. Ma tante était une fan de Proust.
Et d'ailleurs, Proust, en photo, est aussi dans votre bibliothèque.
Parce que pour moi, c'est quand même le... C'est le et l'écriture, je sais que c'est paradoxal, c'est mon côté révolutionnaire conservateur. Je pense que c'est probablement un des bouquins les plus subversifs du XXe siècle.
Ah ben, je le pense. Je pensais d'ailleurs, mais je me disais, est-ce que je vais oser le lui dire?
Ah non, non, mais tout à fait.
Je pensais que votre démarche avait quelque chose de proustien. Et je me disais, est-ce que je vais oser lui poser une question pareille? Mais maintenant, bon, je me sens une porte étroite dans laquelle je m'engouffre. Je me disais, au fond, Daniel Ben Saïd a un rapport au militantisme qu'il inscrit maintenant dans sa philosophie, du même ordre que Marcel Proust a avec les mondanités qu'il a inscrites dans sa méditation sur le temps. C'est-à-dire qu'il y a la dépense du temps, la dépense d'énergie. Alors pour vous, c'est l'engagement. Pour Marcel Proust, c'est la dissipation.
Oui, oui.
Je suis convaincue que le Paris mélancolique vient de là. Que votre amour, vos acquaintances avec Walter Benjamin viennent de là. Il y a quelque chose de proustien. Vous avez un lien au testament politique de Walter Benjamin qui est assez étonnant, parce que ce testament, ce sont quelques thèses, et dans un moment de catastrophe personnelle et de catastrophe de l'histoire épouvantable, où Walter Benjamin va se suicider quelques mois plus tard.
Oui, je crois même, j'ai écrit, c'est pas pour m'autociter, mais quand il écrit les thèses, j'ai le sentiment, comme lecteur, qu'il avait déjà dans les veines le poison de son suicide, qu'il a absorbé qu'un an plus tard. C'est un peu... comme à la manière dont Antonin Artaud parle de Van Gogh et dit quand il a peint ses derniers corbeaux à ras du sol, il avait déjà la grenaille finalement dans les tripes qui l'a tué. Je pense qu'il y a de ça, et que le texte de Benjamin est un texte typiquement testamentaire, d'ailleurs, dans la forme qu'il a, qui est un manifeste. Le manifeste, c'est les thèses, c'est les thèses religieuses. Enfin, c'est un genre religieux, les thèses, c'est un genre déclaratif, testamentaire et à la fois fondateur. C'est pour ça que pour moi, c'est un texte tout à fait important. Alors, quant à Proust, il y a un rapport, parce que Benjamin est, et j'imagine, je ne suis pas assez germaniste pour en juger, qu'il a été un formidable traducteur de Proust en allemand. Dieu sait si ça doit être difficile. Donc, et il a écrit quelques pages précieuses sur Proust. Ça fait partie des petits écrits, mais d'autant plus précieux, sur Proust. Alors, je dis... Par rapport à ce que vous dites sur Proust, quand je dis subversif...
Bien sûr qu'il est subversif, Proust.
Évidemment, il y a toute cette problématique sur le temps. Alors, le temps perdu, c'est ce qui a été justement oublié, ce qui est menacé de mourir deux fois, ce qu'on peut encore sauver. C'est effectivement, vous l'avez évoqué, le temps gaspillé, cette espèce de temps qui se perd dans l'abstraction. Et je crois qu'il y a une métaphore dans les interminables bavardages de salon de Proust, qui sont une vraie délectation de lecture, mais il y a quelque chose, il y a une sorte d'inflation verbale qui est le corollaire finalement de l'inflation monétaire et marchande. Et le salon est une forme de marché à la parole, et je crois que Proust a un véritable corps à corps avec la marchandise. D'ailleurs, dans sa propre conception esthétique, il dit, là, Dieu sait que je ne suis pas à la hauteur, mais qu'il l'est, qu'un livre où il y a des théories, c'est comme un cadeau sur lequel on a laissé le prix, justement.
Oui.
On est dans la vulgarité.
Oui. Oui.
Donc, l'œuvre est vraiment une antithèse de la marchandise et une antithèse de la mort, bon, aussi.
Oui.
C'est-à-dire, bon, le temps retrouvé, c'est ce qui va tenir la mort en échec. Et je crois que là, il y a des analogies. Bon, quelles sont les grandes expériences qui tiennent la mort en échec? Il y a l'œuvre, quand elle est vraiment majuscule, ce qui est le cas pour Proust. Il y a l'amour et la rencontre amoureuse. Il y a le moment, l'irruption révolutionnaire du possible. C'est trois grandes formes de mise en échec, justement, de la morbidité et de la mort, dans l'art, dans l'amour et dans la politique.
D'ailleurs, Proust n'a pas rechigné à se lancer dans l'affaire Dreyfus. Et il a dépeint la guerre de 14.
C'est magnifique. Oui.
Ouais. Ah oui.
C'est magnifique. Coppola lui a tout simplement repris l'idée de la Valkyrie. La Valkyrie des hélicoptères d'Apocalypse Now, c'est dans le passage de Proust sur la guerre de 14 à propos des bombardements et de l'aviation. Les frasques de Charlus, de plus en plus décomposées pendant la guerre, c'est des passages magnifiques.
Et même Saint-Loup. Saint-Loup, il y a un portrait de Saint-Loup et la manière dont Saint-Loup se jette dans la guerre par passion personnelle. Parce qu'enfin, dans la guerre, il va pouvoir assouvir son homosexualité. Il y a quelque chose qui est de l'aveu de la relation intime qui noue chacun à la pulsion de l'histoire, qui a à voir avec le temps qu'on vit. C'est-à-dire que je pense que quand Proust décrypte la passion de Saint-Loup pour la guerre, il décrypte aussi la passion d'un révolutionnaire pour la révolution. Il décrypte aussi la passion de... moi, je peux comprendre, quand je lis l'amour de Saint-Loup pour la guerre, je peux comprendre pourquoi Marc Kravets a été si heureux pendant la guerre du Liban. Parce qu'il l'a trouvé dans la guerre du Liban, où d'ailleurs il est tombé amoureux de femmes libanaises, mais il a trouvé dans la guerre du Liban, enfin, le temps d'intensité, la déflagration qui lui manquait dans le piétinement, le ressassement de la vie quotidienne, même d'un journal. Donc là, je crois qu'il est... Parce qu'il ose, il est très audacieux, Proust. Il ose montrer ce qui, dans les grands moments, fait sauter les verrous de chacun. Et il y a quelque chose là où on comprend le rapport de chacun à l'histoire.
Ce sont des moments, alors... Il y a une quête, justement, on évoquait Régis Debray, il y a une quête de l'événement qui permet justement ce type d'expérience. Bon, maintenant, on ne choisit pas forcément son époque, son territoire, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, il y a toujours cette blessure, finalement, et à la fois cette exaltation quand on est à l'approche d'événements qui flirtent avec la limite. C'est que
une intensité dramatique.
C'est le propre de l'événement, de l'événement qui mérite son nom, pas du fait divers ou de l'anecdote. Il y en a peu.
Alors, vous me parliez du salon et de l'inflation du bavardage dans le salon. Je vous parlerai des réunions militantes et de l'inflation de bavardage des réunions militantes. Il y a dans les joutes oratoires aussi quelque chose de l'ordre de l'épreuve, de la sensation, mettre à l'épreuve, se donner des émotions. Qu'est-ce qui se passe dans l'inflation verbale militante ?
J'espère qu'elle relève d'un autre mécanisme. Je ne sais pas, à brûle pour point, comme ça, j'essaie de trouver une réponse. Je ne l'ai pas a priori. Mais je crois que...
Vous y soustrayez maintenant, mais vous avez succombé à un moment donné au charme.
Oui. Surtout autour, et plus précisément au lendemain de 68, là, on est typiquement dans la théâtralité, dans le remake révolutionnaire. On n'a pas échappé à cette théâtralité qui fait que on se rejouait la grande scène du bolchevisme, les grandes décisions historiques. Finalement, tout ça un petit peu dans un dé à coudre. Alors, avec le recul, ça peut paraître un petit peu enflé, boursouflé et dérisoire, mais...
Pas plus que ce qui se joue dans les salons.
Dans le cas des réunions politiques, je crois que le ressort de ce qu'il faut bien appeler un bavardage, parce qu'il y a du bavardage, il n'est pas totalement gratuit, parce qu'à travers ça, s'élabore aussi la recherche d'un rapport rationnel à son présent... aux antécédents, et il y a beaucoup de dérisoire et de ridicule. Pas seulement. Et je pense que, c'est pas pour dire je regrette rien, mais beaucoup de choses...
Il y a de la dépense symbolique aussi.
Oui,
sens de bataille. Presque.
Et qui produit, quand on arrive après à faire le tri, qui produit une certaine compréhension, une certaine intelligibilité, qui fait que le monde dans lequel on vit n'est pas finalement aussi délirant et incompréhensible qu'il peut apparaître. Alors, ne serait-ce que ça, on aurait gagné un peu... sauver un peu de raison dans la déraison, c'est pas négligeable. Bon, mais je crois que le côté bavardage qui existe néanmoins, il tient à la disproportion entre les ambitions et la capacité d'action réelle. Dans cette disproportion entre les deux, on a l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant langagière, une manière de combler ou de conjurer l'impuissance par une surenchère verbale. Bon,
il y a un autre système d'opposition aussi. Le salon est féminin et il est cruel. Le lieu de conversation militante, encore à l'époque de 68, était plutôt masculin et il était fraternel. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a quand même de la cruauté dans le monde militant?
Oui, le salon, mais le salon est cruel parce que, alors, il est administré en l'occurrence par la féminité, mais une des scènes les plus cruelles justement, puisque tout ça évoque Proust, c'est la fameuse scène des souliers rouges,
oui.
Où Swann vient avec pudeur, réticence, c'est presque une grossièreté de sa part d'ailleurs, annoncer sa mort prochaine et où la duchesse est préoccupée de la couleur de ses chaussures. Bon, et quand je dis le salon est une métaphore du marché, et c'est aussi du coup une métaphore de la concurrence, et d'une concurrence impitoyable. Donc
Est-ce qu'elle n'existe pas aussi dans l'univers militant?
Alors, je crois qu'elle est plus dans la contradiction, ce que vous évoquiez. C'est-à-dire, ça existe parce que...
Debray a parlé de la concurrence entre Che Guevara et Castro. Vous avez parlé de la concurrence entre Staline et Trotsky. Alors, je veux bien que Staline ne soit pas au panthéon révolutionnaire, mais enfin, il était quand même couché sur le testament de Lénine.
La concurrence, enfin, là, se mêlent quand même plusieurs dimensions. Mmh. On a tous nos fantasmes de pouvoir, nos volontés de puissance, donc il y a des rivalités, on écrabouille toujours un peu les orteils du voisin. Bon, tout ça, malheureusement, existe, et il serait naïf de l'occulter. Mais ce qui m'inquiète en revanche, c'est qu'au nom de ces invariants psychologiques relatifs, on dépolitise les situations, les enjeux, y compris les conflits. Pour moi, bon, ce qui donne quand même une rationalité à tout ça, c'est de dire que ce n'est pas uniquement Trotsky est un aristocrate, il devait être insupportable, il a dû écraser de son mépris ce Staline un peu lourdeau, etc. Bon, il y a sûrement des blessures comme ça qui sont difficiles ensuite à cicatriser. Mais enfin, ce qui est fondamental, c'est quand même des choix, des visions de la politique, de l'histoire, du moment qui sont différents. Alors, dans les réunions militantes, tout ça existe. Il y a de la séduction, il y a de la domination. Bon, comme dirait le Bourdieu de Poche, il y a du capital symbolique qui circule, il est inégalement réparti, et c'est aussi un moyen de domination. Donc tout ça ne disparaît pas par enchantement du monde militant. Mais ce que vous avez dit, c'est qu'à la différence justement du salon, il y a le souci, je ne dis pas qu'on y parvienne, de produire du collectif et de la fraternité ou de la solidarité. Un certain comportement collectif, qui d'ailleurs n'est pas uniquement un ressort moral, qui est une nécessité parce que c'est le seul moyen justement de résister à la mise en concurrence destructrice qui est la logique permanente de la société dans laquelle on vit. Donc le seul moyen de créer des points de résistance, c'est de fabriquer du collectif.
Je me suis posé...
collectif et de la fraternité ou de la solidarité. Un certain comportement collectif qui d'ailleurs n'est pas uniquement un ressort moral, qui est une nécessité parce que c'est le seul moyen justement de résister à la mise en concurrence destructrice qui est la logique permanente de la société dans laquelle on vit. Donc le seul moyen de créer des points de résistance, c'est de fabriquer du collectif.
Je me suis posé cette question à votre propos, Daniel Ben Saïd. Je pense que vous avez quand même partagé avec d'autres hommes de votre génération une espèce d'idéal héroïque et guerrier que je retrouve chez Marc Kravès, comme chez Régis Debray, comme chez d'autres gens. C'est-à-dire que là, je me demande si... Là, il y a une culture quand même archaïque et masculine de la Révolution.
Pas seulement de... Enfin, je ne sais pas si c'est spécifiquement de la Révolution. C'est même une question peut-être encore plus, je dirais, profonde ou complexe. Enfin, je ne trouve pas le mot approprié. C'est un problème de rapport à la violence et aux armes.
Oui, à la guerre. Vous avez aimé la guerre, je suis sûre.
Enfin, je ne l'ai pas faite, hein, faut pas
oui,
non plus...
Oui,
non,
mais vous avez aimé être lié à des hommes qui faisaient...
Il y avait une attirance pour ça, et à partir du moment où il y a une attirance et où justement on ne veut pas se considérer en réserve, y compris un désir, une volonté, et de manière très limitée, l'effort pour s'y impliquer. Alors... Ça, je pense que ça demande un examen de conscience, parce qu'en même temps, il y a la découverte que cette violence qui, à travers le personnage symbolique du Che, au moins dans les années 60, on percevait comme essentiellement libératrice, et jamais non plus innocente. C'est-à-dire que même dans ses formes les plus quotidiennes et élémentaires, je pense à des problèmes de service d'ordre pour une manifestation, des choses tout à fait... On n'est pas dans la guerre, on est dans... Mais dès qu'on met en route, finalement... un rapport à la violence, qui est un rapport justement toujours corporel, toujours physique, là, on met en branle quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait.
Bon, et d'ordre sexuel ?
Bon, alors, qui est d'ordre multiple, entre autres sexuel. Et du coup, dès qu'on entre dans la sphère de la violence, je crois que ça demande, en fait... Alors, on ne peut pas non plus la refuser par principe. On est dans une société extrêmement violente. Et la violence fait partie des rapports de force, de l'autodéfense. Je ne suis pas du tout un non-violent ou un pacifiste, disons, de principe. Mais l'expérience, c'est que on est vite prisonnier de sa propre violence ou dépassé par sa propre violence. Donc, savoir qu'on a un rapport à la violence, qu'elle existe, et en garder la maîtrise, je crois que c'est peut-être impossible, mais en tout cas, c'est un souci de responsabilité qui me paraît très important.
Le Che a gaspillé le sang des autres, délibérément. Il l'a écrit.
Peut-être. Est-ce que c'est inévitable ? Je sais qu'aujourd'hui, pour faire un portrait psychologique, c'est pour ça que la psychologie me gêne un peu. Enfin, elle existe. Mais du Che, on dit, bon, mais voilà, il y a eu un infiltré dans la guérilla, il a été condamné à mort, et puis le Che l'a exécuté de sa propre main. Bon, la preuve qu'il ne rechignait pas à la basse besogne. Alors, c'est très compliqué parce que bon, on peut discuter est-ce que c'était fondé ou pas. Enfin, on est dans une situation de guerre. Moi, je ne porterai pas de jugement moral là-dessus. Je ne suis pas en situation.
Ça me donne un frisson de...
Non, mais non, mais dis, dans ce cas-là, plutôt que de dire on condamne le type à mort et puis on envoie un peloton d'exécution formé de 3 paysans ramassés dans la Sierra Maestra, celui qui condamne exécute. C'est aussi une responsabilisation.
Alors, vous n'êtes pas pour la démocratie directe, mais pour la justice directe, vous.
Non, non, la justice directe, au contraire, je pense, aujourd'hui, c'est aussi une des évolutions, mûrissement, vieillissement, que, au contraire, je serais plutôt tatillon sur les questions du droit, y compris du formalisme juridique, parce qu'il n'y a pas de droit et de normes sans formalisme. C'est ce qui permet que le droit, justement, soit pas réductible à la force et au rapport de force. Mais il y a des situations extrêmes ou exceptionnelles. Et l'important pour moi, c'est justement de faire le partage entre ces situations extrêmes et exceptionnelles.
Dans l'exception, dans l'urgence, on le fait toujours mal.
C'est une responsabilité. Hein, je crois. C'est pas si évident. Mais j'ai des beaux antécédents là-dessus. Merleau-Ponty disait, bon, plutôt que le procès Papon, l'exécution en état d'exception à la libération, oui. La réparation 50 ans après... bon, enfin, ce que disait encore plus précisément Merleau-Ponty, c'est qu'il concevait plus justement des formes de justice d'exception, appelons-la révolutionnaire, par exemple, sur la période de l'occupation, par rapport à la collaboration, mais il disait finalement, ça aurait été plus juste une justice d'exception, fût-elle expéditive, exercée par les résistants, que une justice qui, au contraire, fait traîner son exceptionnalité et qui s'exerce après coup par des résistants de la 25e heure. Parce que finalement, les résistants eux-mêmes, vraiment actifs, sont dans la compréhension du même événement. Ils ne sont pas justement dans l'anachronisme par rapport à l'événement.
C'est de l'ordre de l'œil pour œil et il faut sortir du cercle infernal quand même.
Enfin, là, on rentre dans un problème compliqué sur la morale, l'action, les contraintes de l'action.
Et c'est la fameuse...
Je m'interdis plutôt de juger. Hein. Il m'est arrivé une expérience bizarre. Enfin, je n'ai pas eu à exécuter quiconque, hein, mais qui a été une émission de télé sur le régicide en 89. Alors, et où les trucs idiots ont fait voter les téléspectateurs sur s'il fallait guillotiner ou pas guillotiner Louis XVI après l'émission.
Oui.
Bon, enfin, qui peut imaginer ce qu'est justement la représentation mentale, l'univers culturel, dans une situation de révolution, avec les armées prussiennes. Donc là-dessus, mon problème est plus un problème de compréhension, d'effort de compréhension, que de jugement. Il se peut que ces violences, y compris dans un exercice arbitraire de la justice, soient inévitables. Bon, je ne vais pas porter un jugement là-dessus. Ce qu'il importe, en revanche, de comprendre, c'est qu'il y a toujours un danger. C'est cette formule de Robespierre qui est glaçante, de blaser le crime. Donc, de banaliser justement l'exercice de la violence et de blaser son usage au point qu'il devienne routine. Donc, ça, ce souci-là, oui.
Daniel Ben-Saïd, je voudrais absolument parler de la mort. Parce que dans tous vos livres, il y a des méditations sur la mort que je trouve très vivantes. Et je voudrais vous citer, c'est un texte qui est dans un chapitre sur le bégaiement de Moïse, dans Walter Benjamin, Sentinelle messianique, qui est publié chez Plon. La vie, disait Carlo, est une maladie mortelle. Il s'agit de Carlo Michel. Voilà. Car l'être et le devenir sont à terme inconciliables. Mais en attendant, il faut bien vivre. En attendant qu'il se produise quoi ? Demande l'impitoyable Carlo. Attendre. On n'est tout de même pas si pressé. Attendre le meilleur ou le pire, le prochain train, les premières cerises, les dernières fleurs, le petit matin ou le grand soir. Alors, le meilleur, le pire, le prochain train, les premières cerises, les dernières fleurs, le petit matin ou le grand soir, la mort est un temps retrouvé. Où tout, bon, il faut dire que Carlo Michael Stetter s'est suicidé. Oui. Mais je pense à ça, parce que quand je vois dans votre bibliothèque une photo de Marcel Proust, un petit tableau de Chiapas, votre père boxeur, la photo de famille des chiffonniers à Blois, est-ce que votre rêve, ce n'est pas de tout réconcilier ?
Ah oui, ça c'est peut-être une ambition démesurée, mais c'est toujours le syndrome du chiffonnier, c'est de rassembler son monde, de réajuster les pièces disjointes de son univers, et bon, et là c'est probablement un puzzle inachevable. Alors sur la mort, je ne sais pas, je ne fais pas mon examen de conscience, savoir s'il y a dans cette idée de la mort, justement, le seul point possible de véritable rassemblement de ces membres, de ces éléments disjoints.
La mort, la crainte de la mort, amorce toute connaissance du tout. Là, ce n'est pas vous qui parlez, non. C'est Carlo Michael Stetter qui est un suicidé, encore une fois, comme Walter Benjamin. Mais enfin, qui a lutté. Il était en train de franchir une frontière, il a été refoulé, il était à bout de souffle, physiquement, au bord de la crise cardiaque et de l'apoplexie. Donc il s'est donné la mort. Ça aurait pu basculer, c'est indécis. Mais il y a beaucoup de morts dans votre réflexion sur la vie, sur l'histoire et sur le temps.
Je ne suis peut-être pas assez spinozien. Non, dans ce bouquin en particulier, il y a beaucoup de suicidés, effectivement. Oui. Michel Steder, Uriel d'Acosta,
Benjamin d'Acosta, lui-même. Qui est un des premiers juifs excommuniés venus du Portugal et
flagellé en public à Amsterdam, flagellation à laquelle aurait assisté Spinoza. Le Spinoza enfant et d'où il a tiré une bonne part de son inspiration et notamment de sa légendaire prudence, une prudence elle aussi fortement subversive. Je crois que c'est un des personnages les plus méthodiquement subversifs qui a existé. On lui a d'ailleurs difficilement pardonné.
Vous préférez Spinoza ou Benjamin ? Parce que bon,
on est plus proche de Benjamin à bien des égards. Spinoza est quand même reculé dans le temps, mais c'est un personnage fascinant. Hein. Je dirais qu'il fallait quand même une forte dose de fureur et de conviction pour garder l'essentiel de ses œuvres posthumes, non pas par un souci de prudence physique, il a pu être très imprudent. Il y a la fameuse anecdote selon laquelle, au moment du lynchage, parce que c'est un lynchage des frères de Witt, donc des régents de la démocratie hollandaise, bon, il est sorti tout seul avec ses affiches manuscrites des Dachibao de l'époque pour placarder dans les rues d'Amsterdam, et il risquait sa peau. Donc c'est pas un couard. Mais en revanche, il était suffisamment conscient de la portée subversive de ce qu'il écrivait pour préférer rester dans l'anonymat relatif et pouvoir mener, tout en polissant ses lentilles et ses verres, de polir avec le même soin, finalement, cette bombe à retardement que sont l'éthique ou le traité de théologico-politique.
Un artisan qui écrit, c'est le rêve de l'humanité réconciliée.
Oui, si on veut, mais c'est beau comme image, mais en même temps, à l'époque, c'est pas tellement surprenant. Il y a beaucoup de, je crois, Jacob Boehm, il y a eu beaucoup, par exemple, de philosophes cordonniers.
Ah bon ?
Oui.
Amsterdam ?
Non, là, en Allemagne, mais c'est pas le seul cas. Mais je crois que ce sont des pratiques qui sont compatibles avec une certaine forme de concentration méditative. Et je crois que pour Spinoza, outre que c'est fait partie aussi de son activité scientifique. Bon, mais enfin, pour revenir à la mort, Spinoza, lui, là-dessus, n'est pas du tout dans ce registre-là. Il dit « Celui qui pense à sa propre mort n'est pas un homme libre. » La pensée de la mort est déjà une privation de liberté, une contrariété par rapport justement à l'énergie de vie qui est une énergie créatrice. Alors, ce qu'on peut dire en revanche, c'est que
là... C'est parce que dit Freud. C'est pas ce que dit Michel Serres. Vous citez un très beau texte de Michel Serres sur la mort, qui est l'aiguillon de toute création, de toute émotion.
Ah oui,
le tendre aiguillon, dit Michel Serres.
Oui, mais le tendre aiguillon, on est toujours dans le dialogue, enfin, ou en tout cas dans l'effort de maîtrise de ses propres limites. Donc, si on prend la mort comme l'absolu de cette limite-là, c'est dans le dialogue avec la mort que peut s'instituer de la vie. Alors, justement, vous avez sur ce plan-là, il y a un personnage qui fait partie des grands mélancoliques, tiens, qu'on n'a pas évoqué, mais qui est un peu exotique, qui est José María Mariátegui. Qui est le grand révolutionnaire, enfin qui est le père fondateur à peu près de la gauche péruvienne et même latino-américaine. À Mariátegui, là aussi c'est drôle, parce que quand on voit que Benjamin oppose à l'historien, au sens de l'historien académique, l'histoire morte, la chronique qui recueille justement cette mémoire, Mariátegui était tout jeune, à la veille de la guerre de 14, il écrivait dans la presse péruvienne, des articles un petit peu de critique de la vie quotidienne qui étaient signés Juan Chroniqueur. Bon. Et il est venu passer 5 ans, c'était un handicapé, un très tôt physique, il est venu passer 5 ans en Europe à la fin de la guerre où il a fréquenté essentiellement d'ailleurs en Italie, la gauche italienne de l'époque, notamment Gramsci, par ce biais-là connu Sorel, Peggy. Et il y a un texte magnifique que j'ai cité en exergue de la Jeanne d'Arc de Mariátegui sur Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc est un personnage qui parle dans les temps tourneboulés, dans les temps troublés, etc. Et il y a un thème récurrent chez Mariátegui qui souffre physiquement, y compris. Quand je dis il est handicapé, il mourra très jeune, donc c'est sa période active et fondatrice, puisqu'il a vraiment fondé la gauche péruvienne en particulier en les années 20 et 30. Je crois qu'il a dû mourir en 37. C'est le thème de l'agonie. Mais l'agonie prise justement comme vie, l'agonie c'est encore de la lutte et c'est encore du vivant dans ce rapport à la mort. Alors évidemment ce rapport-là est extraordinairement créatif, ça c'est vrai.
Regardez Proust.
Oui, mais à condition de...
C'est grâce à sa maladie que Proust a créé et écrit. Ça a été, je ne sais pas si ça a été son refuge pour écrire.
Oui, il vit de toute façon avec son asthme, il vit une petite mort récurrente. Oui. Donc, mais à une condition qui est de prendre la mort comme interlocuteur, mais de lui enlever finalement sa dimension ou religieuse ou tragique, c'est-à-dire d'être capable de séculariser ce rapport à la mort. Bon, la mort de Benjamin, je ne la prends pas du tout, elle me paraît extraordinairement symbolique. Voilà ce gars qui ne peut vivre nulle part, à tous égards, intellectuel, géographique, et symboliquement, il vient se heurter à un mur, il se résout, après bien des hésitations, à quitter l'Europe pour les États-Unis où l'invite Horkheimer, Adorno, etc. Il existe un passage encore à l'époque praticable.
Il faut dire qu'il a d'abord eu une errance, qu'il est parti de Berlin pour Moscou, de Moscou à Paris.
À Marseille, tentative d'embarquement, faux départ à Marseille, et puis il se retrouve donc passé par le passage des Pyrénées, et à l'époque, bien que franquiste, on pouvait partir par l'Espagne. Et il arrive juste au moment où cette filière est fermée, et on le refoule. Il reste là, suspendu sur la frontière des Pyrénées, entre deux mondes, entre deux univers, entre deux époques, le continent de l'Europe centrale, de la culture d'Europe centrale dans laquelle il a été formé, qui est en train de s'engloutir, l'Amérique qui était prête à l'accueillir, mais où il n'ira jamais, pas plus qu'il n'a pu aller d'ailleurs en Palestine malgré les invitations de Gershom Scholem. Et finalement, on a là, plus qu'un suicide tragique au sens pathos du terme, je veux dire, un suicide logique qui est...
comme une révolte logique.
Qui est une révolte logique par rapport à l'impasse d'une situation. Alors, ce rapport à la mort, oui, je le comprends parfaitement, mais il ne me paraît pas chargé de fantasmes, d'imaginaires religieux. C'est le suicide logique comme aboutissement d'une révolte logique.
Il y a dans ce rapport à la mort, qui revient dans bien de vos livres, il y a un rapport aussi au présent. Ce rapport qui fait, comme le dit Charles Péguy, du présent ce moment étoilé autour duquel le temps s'organise. Et j'ai l'impression que votre compréhension du temps est tout à fait péguiste, en ce sens-là. Et que c'est ce qui vous a permis aussi, dans votre goût pour le génie du présent, dans votre goût pour l'art du présent, de comprendre... par exemple, ce qu'il y avait de très, très subversif dans la compréhension du temps pulvérisé par l'économie chez Marx. Mais ça, on y reviendra après.
C'est une idée, effectivement, qui me tient à cœur. Bon, mais elle est très marquée chez Péguy, d'où d'ailleurs le présent, c'est le sens aussi de l'événement et de ce qui se joue dans l'événement. Elle a des antécédents bien plus lointains, notamment Saint-Augustin. Ça peut être un peu bizarre.
Vous avez découvert par Anna Arendt, dans cette dimension-là ou...
Non, par un de mes maîtres éphémères, malheureusement. J'aurais dû être plus assidu et le fréquenter plus, qui était Jean Toussaint de Santi,
ah oui.
Qui a écrit des pages magnifiques sur Saint-Augustin. Où Saint-Augustin, en fait, le temps est un triple présent. C'est un présent du passé, un présent du présent, un présent du futur. Donc, le nœud de la temporalité, c'est vraiment la répétition du présent dans lequel viennent se perdre et le passé et le futur, ou viennent se nouer le passé et le futur. Pour moi, c'est très important parce que cette perception, cette compréhension de la temporalité commande également une compréhension du rapport entre l'histoire et la politique. On n'est pas les simples produits, la simple conséquence mécanique d'un passé, on n'est pas le simple effet de causes antérieures, et on n'est pas non plus un maillon, une sorte de maillon nécessaire pour l'accomplissement d'un futur déjà écrit, d'une sorte de prédestination. Autrement dit, le présent est un moment de liberté, d'ouverture, qui peut... changer le sens du passé et décider entre différents embranchements du futur. Alors, je crois que ça s'oppose très fortement, et c'est pour ça que ce rapport entre le présent et l'événement a une idée mécanique ou déterministe, au mauvais sens du terme, de l'histoire, qui est plus, je dirais plus, inspirée finalement d'une physique mécanique ou d'une philosophie positiviste.
Vous dynamisez d'ailleurs la formule de Péguy, lui parle d'un temps en étoi, et vous parlez de la gerbe des possibles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la gerbe des possibles. Oui,
la dynamique. Parce que l'étoile, c'est aussi, ce rôle du présent, c'est aussi de prendre...
C'est un principe structurant, l'étoile.
C'est un principe structurant, notamment de pensée stratégique, c'est-à-dire... comment se situer à un carrefour de possibles, avec les branches qui partent dans différentes directions. Et donc, le présent, c'est un temps stratégique, c'est un temps de choix, c'est un temps de décision. C'est le chez les sophistes grecs, c'est le kairos, c'est le moment opportun où justement le cours des choses peut être modifié.
Alors là,
le
quand
moment
vous parlez
à saisir.
De temps stratégique, j'ai envie tout de suite de vous poser une question qui a à voir avec l'inégalité de classe devant le rapport au temps. Parce que j'ai bien vu, on en a parlé dans la première émission à propos de Jeanne d'Arc et dans votre souci de croire qu'il y a une stratégie populaire, j'ai le sentiment que de plus en plus le temps stratégique est monopolisé par des élites et que de plus en plus un nombre incalculable de gens est voué par la précarité à un temps non stratégique. Ce moment où ce que vous qui êtes un tempérament révolutionnaire, qui êtes né dans un peuple révolutionnaire, votre famille de communards, bon, vous avez été nourri à la temporalité stratégique, bien que vous soyez un fils du peuple. Mais aujourd'hui, les gens qui composent le peuple sont de plus en plus atomisés. Ce n'est pas des familles de communards, c'est des familles dispersées, c'est des familles de réfugiés, c'est, bon, et à qui le temps stratégique échappe totalement.
Oui, vous avez le sentiment, mais le sentiment est corroboré en partie par quantité d'études sociologiques aujourd'hui, et en particulier les études qui ont eu lieu sur les chômeurs ou les mouvements de chômeurs, par exemple. Donc, plus largement, tous les secteurs de la population précarisés. Ça induit une modification du rapport au temps, dans le sens une incapacité à construire un horizon, à se projeter dans un futur. Il y a une sorte d'enlisement dans une immédiateté constante. Donc il y a une sorte de répétition de survie qui fait que ça peut être compatible par ailleurs avec des formes fantasmées ou religieuses de libération. Mais il n'y a pas cette structuration du futur qui, d'ailleurs, est sous cette forme-là, est un sentiment de l'historicité relativement récent. Parce que les utopies traditionnelles, enfin traditionnelles, Campanella, Thomas More, etc., comme leur nom l'indique, c'était un ailleurs dans l'espace. Il y a une temporalisation de l'utopie qui se joue autour de la Révolution française. C'est avec Sébastien Mercier, avec Rétif de la Bretonne, qu'on commence à écrire des bouquins. Je ne sais plus que Sébastien Mercier, c'est 2044 ou 2700, où on commence à situer dans le futur la société heureuse. Mais jusque-là, c'était l'île exotique. Donc c'était un imaginaire qui était situé dans l'espace plus que dans un horizon temporel.
Pour faire exploser cet espace trop homogène et trop refermé sur lui-même. Exactement comme un personnage qui s'évade n'est pas la libération de tout un camp de prisonniers, mais elle est une figure de l'émancipation.
Ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'on va prendre une image là aussi, c'est que le rapport à la société souhaitée dans laquelle on s'évade demeure très longtemps, et notamment dans la religion, de l'ordre de la verticalité, c'est faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, etc. Ce qui se passe aux abords de la Révolution française, c'est un lent mouvement, c'est un basculement, justement, dans un axe horizontal du temps, où on commence à concevoir une construction du futur. Dans l'univers religieux, le futur historique a pas tellement de sens, si ce n'est le retour aux origines, si ce n'est la remémoration, la rédemption retrouvée. Mais là,
le salut,
très très proprement le salut. Mais c'est à partir de la Révolution française qu'il y a l'idée que le futur est finalement quelque chose que l'on peut maîtriser, que l'on peut construire, que l'on peut déterminer.
Et qui est de l'ordre de la promesse.
Qui est de l'ordre de la promesse, du projet, du programme, tous les termes en pro.
Du progrès.
Du progrès, évidemment. Donc, mais bon, voilà, c'est cet horizon du futur.
Tout ce qui échappe aujourd'hui à des masses de plus en plus nombreuses de populations.
Alors, ça, c'est vrai pour eux. C'est vrai. Est-ce que c'est un phénomène plus général? Ça, c'est une hypothèse, effectivement, à creuser. Il est très possible, justement, que le rapport vécu à la temporalité
soit un rapport profondément désorganisateur.
Chaotique.
Chaotique, effectivement. Bon, une suite d'instantanés, un temps miette, la télé. Bon, et finalement, on dit. Alors, il y a d'autres phénomènes, crise économique, incertitude, inquiétude. C'est vrai que pour la première fois, depuis 50 ans ou 60 ans, on commence à concevoir que les générations futures puissent vivre plus mal. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais enfin, en tout cas, ça paraissait inconcevable. Il semblait que l'idée qu'on irait de mieux en mieux allait de soi. Alors, on pouvait aller plus loin dans le mieux ou plus vite. Mais ça semblait quelque chose d'acquis, en tout cas, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis que les grands désastres du siècle, le nazisme, la guerre, avaient été des parenthèses dans une sorte de marche au progrès qui avait repris ses droits. Bon, aujourd'hui, on se demande plutôt si l'exception n'est pas la règle et si la dominante n'est pas de l'ordre du désastre, plutôt que justement de cette marche bienheureuse au progrès.
Alors, c'est pour ça que j'ai bien aimé votre livre, Marx, l'intempestif, sur les grandeurs et misères d'une aventure critique, parce qu'il y a une réflexion extrêmement vive qui sollicite le temps présent que l'on voit totalement dominé par la temporalité économique. Chez Marx, quand il fait la critique de l'économie politique, le temps de l'économie, c'est un temps saccadé, un temps brisé, un temps cyclique, un temps de crise. L'économie politique capitaliste, elle est saccadée et brisée. Et dans une période où le capitalisme se renforce, où les concentrations sont gigantesques, celles des téléphones aux États-Unis dépassent ce qui n'a jamais pu exister, les puissances financières et la mondialisation des flux financiers sont telles que ce temps saccadé, brisé et ces cycles qui sont concentrés dans des puissances financières et échappent totalement. Enfin bon, moi j'imagine ce que c'est que pour des tas de gens d'être dans une entreprise suspendu à une concentration. On attend Godot.
Non, oui, l'impression effectivement de non-maîtrise sur le présent et sur l'avenir qu'il dessine, bon, peut très bien nourrir ou des sentiments d'impuissance, de résignation, de fuite ou de mystique, d'attente, sous une forme plus mystique que politique. Ça, c'est vrai.
Qu'est-ce qui domine le temps en ce moment? Ce sont les puissances financières. Qui d'autre?
Avec ceux qui battent la cadence, on vit au rythme du capital. Ça, si vous voulez, l'espèce de culte aujourd'hui, de la vitesse, de l'accélération dans le vocabulaire, y compris ambiant, la publicité est un accélérateur, le crédit est un accélérateur, et donc on a un rythme, effectivement, qui est complètement donné par l'espèce de pulsation. Ça, je crois que c'est un des coups de génie de Marx, c'est que pour lui, le capital, c'est pas seulement le titre d'un livre, c'est le corps vivant. Ces métaphores sur le métabolisme, sur la circulation sanguine, sur les arythmies, sur les crises, qui sont presque des infarctus dans le système, on est exactement là-dedans. Donc, finalement,
la dérégulation contemporaine appartient aussi à ce cycle de déstructuration du temps. Dérégulation économique, libérale.
Absolument. Alors, le paradoxe dans tout ça, enfin, ce serait intéressant, mais ça vient comme ça, parce qu'en revanche, effectivement, du côté de la puissance, du pouvoir, et j'inclus dedans la concentration de richesse, là, il y a une pensée, je ne sais pas si j'appellerais stratégique, mais sur le long terme. Là, il y a de l'anticipation, alors que du côté populaire, l'anticipation est pratiquement confisquée. On est enfermé dans un présent pulvérisé. Bon. Et du coup, alors que le terme d'avant-garde, on peut contester sa connotation militaire, mais était valorisé pas seulement en politique, mais sur le plan culturel et esthétique, les avant-gardes picturales, musicales, architecturales.
Hein. Ça fait 25 ans que c'est dévalué.
Hein. Aujourd'hui, c'est complètement dévalué, et au contraire, ce qui est valorisé, c'est le poste. C'est les postismes, la postmodernité. Ce qui est valorisé, c'est le fait en soi, tout simplement de venir après, non pas d'inventer d'explorer ou de pousser vers l'avenir finalement les pointes du possible, mais tout simplement de se situer
post-moderne.
D'être les derniers de la liste.
Bon. Post-futur, j'ai même vu.
Un post-futur. Et alors je crois que c'est symptomatique. Alors il y a sûrement une dialectique subtile
Je dirais pas ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir concevoir à nouveau des combats d'avant-garde, il faut d'abord mener les combats d'arrière-garde.
Bon, vous réhabilitez la notion d'avant-garde alors.
Et celle d'arrière-garde aussi.
Mais je comprends pas ce que ça veut dire.
C'est dans la défense de l'héritage. Uh-huh. Hein, et avec cette idée très biblique que les derniers seront les premiers, donc on y retrouve son compte.
Vous êtes très imprégné de messianisme. Hein.
Mais ça, je ne le récuse pas. Au contraire, oui. Je le revendique à une condition, justement, c'est qu'on s'entende oui. sur la notion de messianisme. Mais pour moi, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas la promesse garantie, ce n'est pas un certificat de vente sur le futur. C'est, au contraire, le messianisme, dans la capacité à être attentif, disponible à ces irruptions de possibles qui peuvent justement casser cette mécanique des cycles, cette espèce de cercle vicieux.
Mais il n'y en a pas beaucoup.
De cercle de fer.
Vous employez tout le temps la dimension de temps stratégique, et je réfléchis à l'échelle stratégique qui est celle des démunis aujourd'hui. Elle est presque totalement réduite.
C'est dans le très court terme, oui. Mais ça s'inscrit dans un problème beaucoup plus vaste qui, là, c'est ma part de doute, hein, qui est pour moi le problème irrésolu. La contradiction flagrante irrésolue par Marx, qui est de dire, d'un côté, quelle est la force qui peut permettre de sortir de ce cercle de fer ? Bon, ben c'est, pour lui, le prolétariat, etc. Et pourtant, en même temps, il est celui qui décrit, de manière absolument accablante, la reproduction de la domination, la domination du capital dans l'organisation du travail comme des loisirs ou comme de l'habitat, c'est une mutilation des corps et des esprits qui pratiquement détruit de manière récurrente les capacités de résistance, les capacités d'en sortir. Alors, Marx s'en sort parce que j'appellerais un pari non pas mélancolique mais sociologique en disant mais finalement, par l'accumulation du nombre, par la croissance sociologique,
mais le nombre n'est pas stratégique.
Les digues vont... D'autant plus qu'il est en régression. Sans prétendre que la classe ouvrière ait disparu, etc. C'est un autre débat. Mais il est en régression. Et alors, je crois que ça ne suffit pas. Il y a une dimension proprement, justement, culturelle. L'accumulation d'expériences, de transmission de mémoire, de liens entre générations, de capacité, justement, malgré ces obstacles colossaux, de construire une temporalité des opprimés. De reconstruire un rapport au temps du point de vue des opprimés. Mais il faut que ces constructions, que ces points de résistance à l'irrésistible, comme disait Françoise Proust, puissent justement faire effraction dans les moments d'arythmie du capital, dans ces moments de dérèglement où le cercle infernal peut être brisé. Sinon, on est condamné à l'image justement de la cour de prison. Hein. Benjamin avait cette image-là, hein, le saut du tigre. C'est le saut du tigre qui échappe finalement au fouet du dompteur, le saut du tigre hors de l'arène. Bon, ben, ça fait partie du pari, mélancolique ou pas, mais que le saut du tigre demeure possible.